Alors, la promotion de notre monde, c'est de faire des sansons. Des gens qui sautent à 2 mètres, à 5 mètres, à 6 mètres, des autres qui courent plus vite que le mur du son, des autres qui nagent et qui traversent la piscine en 3 secondes, hein, des autres qui font 40-50 km sans claquer, je dirais, pratiquement. Des gens qui font du vélo à travers toute la France, à travers l'Italie, l'Espagne, etc. Vasi Nenez, toujours des champions, et des footballeurs qui gagnent 300 000 euros par semaine, c'est un Samson. Bon, c'est les stars, c'est les superstars. Et si vous regardez la télévision, il y a aussi les nénettes qui s'exposent et qui gagnent beaucoup de sous en s'exposant. Hein? Bon, ça veut dire que tout simplement, nous sommes dans un monde où il faut paraître puissant, il faut paraître fort, il faut paraître beau. Hein? Et pourtant, moi j'ai fait de l'archéologie et ça m'a toujours intéressé, l'archéologie. Parce que quand j'ai déterré au dolmen sur les feux, les morceaux d'eau, il ne reste pas grand-chose de nous. Quand j'ai fait des fouilles romaines à Zeslich, d'une villa romaine, il y avait un cimetière à côté de la villa romaine, des tombes, villa romaine, ben c'est pas grand-chose. Hein, tout compte fait, j'ai appris à très relativiser. Quand, je dirais, le diable est sur le point de me séduire, parce que ça arrive, hein. Oh la jolie, oulala, j'oublie ma femme alors, comprenez? J'oublie ma femme. Et non, je relativise très vite, parce que je pense aux tombes gallo-romaines de Zeslich, au dolmen et tout le reste que j'ai vu. Et je dis, ce n'est qu'un paquet d'eau, avec une enveloppe qui sera bientôt partie. Pour moi, c'est très relatif, ce qu'on voit. Tout ce qui reste, c'est ce qui demeure éternellement avec Dieu, et qui sera là à la résurrection. Adieu le beefsteak, adieu les apparences, adieu les impressions superficielles. Il n'en reste rien, c'est comme de la fumée. Vous pouvez voir des textes partout dans la Bible là-dedans. Mais ce qu'il y a, c'est que la gloire de Dieu peut être sur quelqu'un et peut transformer sa vie. Elle peut changer toute sa vie. Tout à l'heure, je voyais dans toutes les paroles que disait notre ami Michael que Dieu gardait le juste. Hein, et on peut, beaucoup de gens ne pensent pas ça. Pour être juste, il faut obéir. C'est le juste, c'est celui qui est pardonné de Dieu, qui a demandé pardon, qui a été gratuitement pardonné, mais qui obéit, qui intègre. Vous avez beau être pardonné, si vous n'obéissez pas, vous n'êtes pas intègre vis-à-vis de Dieu. Donc, le juste obéit, le juste aime obéir, le juste s'arrête à temps devant son péché, devant ses égarements, devant ses tentations. Il s'arrête à temps, parce qu'il dit, ça c'est perdant d'avance, ça, ça déplaît à Dieu. Ça, c'est pas en son honneur. Ça, c'est un manque, si j'écoute ça, c'est un manque d'amour envers toi, Seigneur. Il y a toujours dans la conscience l'œuvre de l'Esprit Saint chez le juste. Et l'Esprit Saint montre et fait rougir. Et on s'arrête avant. C'est comme un passage de chemin de fer, quand la barrière s'abaisse, imaginez qu'elle ne s'abaisse pas, le feu s'allume et la barrière ne s'abaisse pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez? Eh bien, ça, c'est le chrétien fou, insensé. Si le feu s'allume et que la barrière ne s'abaisse pas, je m'arrête quand même. Je m'arrête quand même, pourquoi? Parce que la barrière est en panne et que le train va passer. La sagesse est de savoir s'arrêter et de ne pas adhérer au péché. Voilà, chez le chrétien. Naturellement, le convoi est difficile. Très difficile, très. Très difficile. Comment résister dans ce combat? Veillez et priez. Moins de TV, moins de téléphone portable, moins d'internet, plus de présence dans le Seigneur, face à face. Mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas, il ne m'a jamais téléphoné. Ça sert à quoi? Ben, je voyais un petit peu à travers tout ce que disait Michael, je me rappelais, cette petite fille de 12 ans, ici au village à côté, quand les parents sont venus me dire, elle est disparue. Et on leur fait la déposition à la gendarmerie et ils ne font aucun effort, ils ne la cherchent pas. Ils pleuraient. Pourquoi est-ce qu'on est venu à moi? Plutôt qu'à autre chose, demander à quelqu'un d'autre, Jean, est-ce que vous ne voulez pas chercher après notre fille? Je les voyais qui pleuraient, je priais, je m'adressais à mon Seigneur et je disais, Seigneur, est-ce que tu seras avec moi si je dis oui? Et j'avais la paix. Je savais que le Seigneur me disait oui. J'ai dit oui, je chercherai. J'ai fait toutes les discothèques, les maisons closes, les fancifères. On m'a montré derrière, on m'a insulté, on voulait me casser la figure. Je regardais personne, je priais au nom de Jésus. Et ça, c'était le dimanche. Le vendredi, fin de journée, la fille de 12 ans était chez ses parents. Je sais et je crois que Dieu récompense la prière et la fidélité. Je le sais. Je n'ai pas d'explication. À tous ces gars-là, ils avaient envie de me casser la figure et ils ne l'ont pas fait. C'est Dieu qui était entre eux et moi. Donc, sachez bien qu'il faut donner, non pas prêter sa vie et tricher, il faut donner sa vie entièrement, sa confiance entièrement à Dieu. Et il faut résister au péché. Il y a de grandes victoires qui valent mieux que de petits moments où on pense qu'on est bien, et puis après, on s'effondre lamentablement. On s'écarte de Dieu, on en souffre, on a honte. Dieu n'a pas voulu que nous soyons dans la honte, il a voulu qu'on soit dans la joie. C'est un Dieu de paix et de joie. Alors, ça c'est grosso modo pourquoi vous présentez notre Samson. Juge, livre des juges, chapitre 13. Livre des juges, chapitre 13.
Page 196.
196 pour les Français. Il faut bien compter qu'on est à la frontière. D'ailleurs, depuis tout un temps, il y a plus de Français que de Belges à l'église, hein. Et c'est très, très bien comme ça. La France est quand même plus grande que la Belgique. Hein? Il me semblait que la proportion dans l'autre sens était anormale. Dans le livre des juges, est-ce que vous avez une Bible? Autrement, il entraîne partout ici. Hein? Il ne faut pas hésiter. Au chapitre 13, ça commence comme ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Ça, c'est clairement la situation spirituelle d'un peuple qui ne sait pas obéir à Dieu et qui pense être le peuple de Dieu et qui, dans les faits, ne l'est pas. Ça, c'est une leçon extrêmement importante pour nous. Il faut faire attention. Il y avait, bien sûr, des possibilités à ces hommes et à ces femmes d'aimer Dieu. Mais ça ne les intéressait pas tellement. Alors, on trouve toujours dans ce livre un verset qui revient toujours, « Et le peuple faisait bon ce qui lui semblait bon. » Il lui semblait que certaines choses étaient bonnes et le peuple les faisait. Il les suivait, ses instincts, son cœur, etc. Ses passions. Ça, c'est dans le juge, tout le temps. Ça revient tout le temps. Et si vous voulez, Dieu, ben, tu veux déraper, tu veux glisser, ben vas-y, glisse. Hein. Je t'ai laissé la liberté de choisir. Et voilà. Bon, ce qui va se passer, c'est que dans cette période entre Josué, qui était un homme de prière, un homme de foi, et David, il va y avoir une situation de plus de 300 ans très difficile, où le peuple va beaucoup souffrir. Alors, les Hébreux sont pauvres, ils vivent sur les collines, dans les vallées, dans les plaines, il y a des gens extrêmement puissants et organisés, ce sont les Philistins, les Hittites, c'est des peuplades qui viennent de l'île de Crète et de Turquie, ils ont la métallurgie, ils ont les armes, ils ont les outils, ils ont des chars de guerre, ils ont des armées organisées, et les autres, c'est des Mandaï. C'est comme si vous étiez réfugiés irakiens et syriens, et que vous étiez dans les bois en Tchécoslovaquie, en Hongrie, etc., que vous êtes en train de passer, vous ne savez pas où aller. Ils étaient dans cette situation-là, les Hébreux. Sauf qu'ils avaient eu, dans leur passé, Abraham, Jacob. Ils avaient eu Moïse. Ils avaient eu Josué et Caleb. Et que ces hommes de foi-là, et il y avait des femmes aussi, ces êtres de foi, avaient mis toute leur confiance en Dieu et avaient été bénis, avaient eu des signes puissants. Et eux n'avaient pas de signes puissants parce qu'ils suivaient leurs instincts. Alors, l'exemple de notre ami Samson, c'est un homme d'instinct. C'est quelqu'un qui est appelé par Dieu pour intervenir et sauver son peuple, et c'est un homme d'instinct. C'est un homme qui tient compte sur ses forces et qui va se casser le nez. C'est vraiment très intéressant de se rendre compte qu'il y a de grandes leçons à tirer de la vie de Samson. Bien qu'il se casse le nez, bien qu'il meure sous les piliers du temple du dieu Dagon, qu'il est écrasé et qu'il y a 2-3 000 personnes de blessées et souffrantes et mortes, bien qu'il ait une victoire quelque part, le peuple de Dagon et des Philistins est impressionné, le dieu des païens a perdu la face, et il semble que le dieu des Hébreux ait été plus fort, ce n'est jamais que des suppositions dans la tête des gens. Les gens sont déchirés, ils n'ont pas vu dans Samson la sainteté. Samson n'a jamais recherché la sainteté. Samson a recherché la force. Un des plus grands pièges aujourd'hui, dans le christianisme, dans beaucoup de prédications et d'églises, c'est de rechercher la force et la puissance. Comme Samson. Si nous sommes bénis, nous allons avoir des victoires. Et il y a des pasteurs, il y a des prêtres, il y a des églises qui crient la victoire tout le temps. Et jamais de défaite. Et quand il y a des défaites, on ne les voit plus. On n'a pas eu les miracles qu'on voulait, on n'a pas eu les guérisons qu'on voulait, on n'a pas eu l'autorité qu'on voulait. On ne sait plus où on en est. On est paumé et on ne prie pas, on ne s'intéresse pas à Dieu lui-même. On s'intéressait à la puissance. Eh bien, les amis, c'est un petit peu le drame de Samson, mais c'est aussi le drame d'un courant théologique qui a beaucoup répandu les églises, dont il faut se méfier comme le poison. L'appel de Dieu, c'est pour la sainteté, c'est pour un cœur changé, pour un cœur animé par la vérité de Dieu. C'est pour un cœur humble, transformé. Voilà, ça c'est le préambule de ce que je voulais vous dire. Donc quand Dieu a appelé cet enfant, Dieu avait dit à la maman, chapitre 13, verset 8, « Tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël d'un main philistin. » Chapitre 13, verset 5. Il a commencé, ils sont pas encore délivrés. Pourquoi ? Mais parce que le peuple des Philistins a perdu son temple, la statue de Dagon, où on faisait les sacrifices humains, et crac, badaboum, ils se moquaient de... vous lisez le récit de Samson. Et à la fin, vous voyez qu'il est enchaîné, il a les yeux crevés, et il tire les colonnes, il fait tomber le temple. Et il y a beaucoup de blessés et de morts dans le peuple des Philistins. Donc, la confiance dans leur Dieu, dans leur sacrifice humain, est ébranlée. Oui, vraiment, il a commencé à ébranler l'ennemi, et il a commencé à faire tourner le peuple vers le peuple hébreu, vers son Dieu. Mais ce qu'il y a, il n'a jamais recherché la sainteté. C'est ça le problème de notre brave homme. Que Dieu va appeler. Si vous êtes appelé, que vous êtes baptisé, vous êtes chrétien, et que vous oubliez que vous êtes appelé à la sainteté, vous êtes baptisé pour rien du tout. Vous pouvez finir sous les piliers du temple, du diable, comme Samson. La voie royale, c'est la sainteté. Ne confondez jamais l'appel de Dieu et l'appel du diable. L'appel du diable, c'est la puissance, c'est la mise en valeur de soi, c'est les exploits. Tout cela est mensonger. L'appel de Dieu, c'est la sainteté. Regardez à Jésus comment il est. Confiez-vous en Jésus. Parlez avec le Seigneur Jésus. Alors, à la fin du chapitre 13, au verset 24 et 25, « La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, l'Éternel le bénit. » Donc Dieu dit des choses bonnes sur cet enfant, devant les anges, devant les hommes, qui ne sont suivis d'aucun chagrin, c'est ça, sans de bénédiction. Ça marche, mais c'est à un moment donné, ça va changer. Parce que l'enfant, il grandit, et il a grandi, et il commence à suivre son moi-je. Il ne peut plus suivre vraiment l'appel de Dieu. L'Esprit de l'Éternel commence à l'agiter à Macanaï, dans, entre Soréa et Eshtaol. Il y a un combat dans Samson, entre ce que Dieu veut et ce que lui veut. Et lui, c'est un homme instinctif, sanguin. Je vois une femme, il me la faut. Je veux casser la figure à ceux-là, je leur casserai la figure. Etc., etc. Vous savez, les passions humaines, ça n'a pas de limite. Sauf la mort. Alors, il faut savoir que ce bonhomme, regardez au chapitre 14, il va se heurter à une puissance politique, militaire, spirituelle très forte. Au chapitre 14, verset 4, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Hein? On va voir ce que ça veut dire. Mais, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Les Philistins avaient le pouvoir total. Alors, pourquoi est-ce que le père et la mère ne comprenaient rien? Parce que Samson va s'amouracher d'une femme philistine. Or, c'est interdit. Regardez le livre du Lévitique, du Deutéronome, c'est interdit. Il faut marier quelqu'un qui a la foi en Dieu pour s'abstenir. Pratiquement, regardez la différence entre Jacob et Ésaü. Ésaü prenait des femmes des Philistins, des Cananéens. Regardez Jacob, il y a quelqu'un qui il a été rechercher une femme à Haran, dans le nord de Syrie, pour une femme qui aimait Dieu. Comme son père Isaac, avec Rebecca. Alors, les Philistins dominaient, et il faut briser cette domination. Comment la briser? Par des combats militaires? Impossible. Les Hébreux n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas d'armes. Et ils n'ont pas d'armée. Ils ont juste leur bâton pour chasser les moutons et des tentes. Quand ils ont fini de cultiver un peu de blé sur les collines et de faire le pain, hein, et d'aller faire la cueillette, de chasser, de vivre avec leurs moutons, avec le lait caillé, etc., faire les tissus, ben, leur vie était complète. C'était certainement 10-15 heures de travail tous les jours. Et de l'autre côté, les autres étaient très perfectionnés dans leur civilisation, humainement parlant. Donc, les Philistins dominaient. Et comment faire? Eh bien, Dieu va utiliser la faiblesse, les vices de Salomon, de Samson, pour arriver à mettre la pagaille un peu chez les Philistins. Pour mettre la pagaille. Pour ébranler leur confiance dans leur Dieu, pour ébranler le système. Donc, voilà, tout d'un coup, ça commence par la convoitise charnelle, sexuelle. Il aime une fille des Philistins plutôt qu'une fille des Hébreux. Donc il désobéit à Dieu, clairement, ça va lui coûter cher. Et alors, il a Marie, il entraîne son papa à ce repas, et en cours de route, il y avait eu un lion féroce, Samson l'avait tué. Ce lion avait pourri, les abeilles avaient fait un nid dedans, et il y avait du miel. Et il a offert du miel, il a offert toutes sortes de choses de ce lion, à ses parents. Il ne leur a pas dit d'où ça venait, parce que c'est impur. Dans la religion juive, c'est interdit de manger de ça. Donc, il a trompé ses parents. Et pratiquement, il va descendre, verset 10, chapitre 14, verset 10, le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons des Philistins qui se tinrent avec lui. Et bien sûr, lui, il va jouer, il va faire le malin, parce qu'il aime bien faire le malin, il va proposer une énigme. Et il va les embêter, mais vraiment embêter pendant 7 jours. Hein? Alors l'énigme, c'est ceci, verset 14, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Alors, ils deviennent fous parce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'explication, ils sont humiliés, ils deviennent méchants, et ils disent à la jeune femme, Philistine, écoute, il est en train de nous rouler dans la farine, il est en train de nous humilier, ça ne se passera pas comme ça, ce petit gugus de la colline là-bas ne va pas nous rouler dans la honte, tu veux qu'on te fasse un petit cadeau? Verset 15, le septième jour, il dira à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. Il refuse d'être humilié, ça va te coûter la vie si tu continues. Vous voyez l'honneur. Mais regardez encore maintenant dans ce pays-là, il n'y a pas d'islam. Au nom de l'honneur, au nom de l'honneur, hein, il n'y a pas besoin. Ce n'est pas une question d'islam. L'islam cautionne peut-être, mais encore pas toujours. Mais ce qu'il y a, il refuse d'être humilié. Il y a un profond orgueil. Et cette femme va finir tellement elle pleure, tellement elle est déprimée, tellement elle est malheureuse de voir qu'elle est menacée par sa famille, par les siens. Elle va persuader son mari de parler. Ils vont trouver. Et bien sûr, il y a une évidence, c'est que Samson a perdu. Il doit fournir 30 tuniques, 30 vêtements à tous ces hommes-là. C'est lui qui a perdu. Bon ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller tuer des gens. Vous voyez ça? Au chapitre 14, verset 19, l'Esprit de l'Éternel le saisit, il descendit à Ascalon, il y tua 30 hommes, prit leur dépouille, et donna l'événement de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. C'est comme les djihadistes, hein, ils pensent que c'est Dieu qui les a envoyés le faire. Ben, Samson était comme ça. Quand on confond l'adrénaline des glandes surrénales et la glande, les hormones de la glande thyroïdienne avec l'œuvre de l'Esprit Saint, on peut aller loin, vous savez. On peut aller loin dans la confusion. On peut aller loin dans le carnage, au nom de Dieu. Surtout en enfer qu'on va loin. Parce qu'on confond la sainteté de Dieu avec la crapulerie, la méchanceté de l'homme. Alors, évidemment, il est fou furieux, il va tuer un peu plus loin, à Ascalon. J'ai visité ce coin-là. Et il va donner les vêtements. Mais, du fait que les amis ont quand même été humiliés, du fait qu'il a été tué, le papa de la fille va dire « Ce gars-là n'aura pas ma fille. » Bien que le mariage aurait été fait. Il la marie à un compagnon. Verset 20. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Qu'est-ce que c'est? C'est pour humilier Samson. Puisqu'il est costaud, on n'arrive pas à le tuer, on va le briser au niveau du statut de tous, un autre homme va passer sur sa femme. Elle va être humiliée, c'est une femme désormais maudite. C'est une femme qui ne leur appartient plus, elle est souillée, c'est comme ça. Et actuellement, c'est encore comme ça en Irak et en Syrie. C'est une mentalité pré-islamique, c'est une mentalité atavique de ces régions. Le mépris, si on ne peut pas tuer l'homme, on va le tuer autrement, moralement, spirituellement, en violant la femme. Et ici, ben, on l'offre aux copains, qui sans doute ne demande pas mieux. Au chapitre 15, il voudrait bien revoir sa femme. Hein? Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme, il lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Il se moque de lui. Il se moque de ses sentiments, parce que Samson avait du sentiment pour cette fille, probablement. Samson leur dit, cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Alors, il va attraper 300 renards, il va lier chaque renard à l'autre renard, deux queues ensemble, et il met une torche. Ça fait 150 torches qui se baladent dans tous les champs de blé, dans les vignes, dans les oliviers, et toute la région brûle. Nous sommes écologistes, les pauvres renards, n'est-ce pas? Les pauvres oliviers, les pauvres champs de blé, etc. Mais vous voyez à quel point la colère et la passion peuvent donner des férocités, tant chez Samson que chez les Philistins. C'est ça, j'ai réfléchi à ça, c'est parce que ça fait des jours que je pense à Samson. Même quand je vais travailler au bois, charger le bois, etc., que je passe à droite et gauche en auto, et je réfléchis. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, ce Samson, pour aujourd'hui? Il suit cette passion. Et nous avons dans toute l'éducation, dans tout ce que nous vivons, mis la passion sur un piédestal. Et on voit où ça nous mène. Hein. Il y a des incendies dans tout le couple. Il y a des incendies dans toutes les sociétés. On n'a jamais eu autant de gens en psychiatrie, même à l'âge de 10 ans.
il y a des incendies dans les âmes.
Si c'était là dans les champs, si c'était là dans les oliviers, maintenant c'est dans les hommes qu'il y a des incendies. Incendies destructeurs. C'est le Seigneur qui a donné la vie, c'est le Seigneur qui guérit la vie. Alors, puisqu'il a mis le feu à toute la récolte, eh bien, les Philistins sont complètement enragés. Et au verset 6, chapitre 5, verset 6, les Philistins montèrent, ils la brûlèrent, elle et son père. Donc, ils brûlent la femme de Samson et son père, surtout de la mère avec et tout le reste, hein. On ne fait pas le détail. Mais ce qui est, est-ce que c'est pas ça qui se passe là pour le moment? J'ai vu un film de Arte sur les femmes en Irak et en Syrie. C'est effrayant ce que ces femmes subissent. Effrayant. Samson, verset 7, dit ceci, chapitre 15, verset 7, leur dit, est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. La rage se multiplie. La rage. Je voyais dans toutes ces femmes qui ont été violées, qui avaient subi des tas de choses en Irak, ce film, certaines se montraient le visage, mais celle qui parlait le plus et qui a mieux expliqué les choses n'a pas montré son visage. Elle était de profil, elle n'avait pas le voile. Elle l'a dit, j'ai connu la passion de Christ. Je n'ai jamais imaginé. J'étais heureuse à l'université avec mes amies musulmanes. On était heureuse. Et 2-3 ans plus tard, nous avons connu la passion de Christ. Je comprends ce que Christ a souffert, que cette femme disait. C'était sans doute une des rares chrétiennes parmi toutes ces jeunes femmes musulmanes. Eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, Jésus était encore dans le cœur d'une femme, une femme qui souffrait. Eh bien, les Philistins n'ont pas envie de voir la souffrance. Ils la créent. Ils sont insensibles. Encore aujourd'hui, ces chers Philistins. Alors, évidemment, Samson est très fâché. Il va battre, au verset 8, chapitre 15, il va battre les Philistins, il va les rosser, on ne dit pas qu'il en tue, mais, et puis après, il se réfugie dans une caverne, au verset 8. Je me suis posé la question pourquoi il s'était réfugié là. Bien, dans Romains chapitre 2, on voit que angoisse et tribulation sur l'âme du pécheur. Il est dans l'angoisse, il est dans la détresse, il a perdu sa femme, il ne sait plus où il en est, il n'a pas honoré la foi de ses parents, ni l'appel de Dieu, il a suivi ses passions, il est complètement paumé, il est dans la boue de son péché. Dieu l'avait dit dans Osée, vous porterez la peine de votre péché. Et c'est effectivement là, à mon avis, que ce n'est pas brillant pour lui. Ça dure peut-être un mois, deux mois, on n'en sait rien. Toujours est-il que les Philistins, eux, sont dans la haine et la recherche. Et disent aux Hébreux, si vous ne nous le livrez pas, on va vous faire un gros carton. Hein. On va aller tuer tous vos villages, vos femmes, vos gosses et tout. Alors, 3000 hommes hébreux viennent au verset 11, chapitre 15, verset 11, viennent trouver ce Samson dans sa caverne en disant, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Il répond comme un gosse, œil pour œil, dent pour dent. Hein? Il n'y a aucun... Je réfléchissais à ça, je me dis, mais où est le problème de Samson? C'est qu'il n'a aucun désir de sainteté. Les amis, si vous ne ressortez pas aujourd'hui d'ici avec un désir de sainteté sincère et vrai, allez vous mettre dans une caverne pour le reste de votre vie et pleurez sur votre cœur qui ne veut pas aimer la sainteté parce que vous n'aurez que des misères. Alors, il va faire jurer à tous ces gens-là, au verset 12, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Donc il va se livrer, il met des cordes, et on le conduit aux Philistins. Et bien sûr, quand il est chez les Philistins, eh bien, la rage leur prend. Au verset 14, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris de joie, bien sûr, à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, Ben, Dieu lui avait donné une force énorme, hein. Les cordes qu'il avait aux bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Ça existe, hein?
Oui, moi j'ai vu à l'Athénée, quand j'étais à Virton, à 13 ans, 13-14 ans, un gars qui avait 2 ans plus que moi, hein, c'était Paul, je ne vais pas dire le nom de famille, parce que sa famille est ici à côté, il prenait un guidon de vélo en acier, il faisait un nœud dedans, à 13 ans. Ok, imaginez que c'était avec votre cou, ou avec vos bras, ou les jambes. Hein? Ben mon vieux. Donc il y a des gens qui ont du peps, hein. Et c'est comme ça, ils l'ont reçu. Ben ils en abusent peut-être. J'ai vu comme ça un gars sur les chantiers, il prenait une enclume de 250 kg et la portait. Le problème c'est que... Ça... Et puis naturellement il sortait, il avait café, lait. Greluche tournait autour de lui. Quel beau mec, hein? Quel gars costaud. Donc il s'est payé des tas de femmes n'importe où, n'importe quand. En 5 minutes, en 3 minutes, en 2 nuits, tout ce que vous voulez. C'était vraiment de la corruption. Moi j'avais la confiance. Il me livrait tout ce qu'il faisait. Je venais comme ça. Hein? Leur machine à laver, ils me sortaient la saleté de leur linge. Quoi, hein? Et pratiquement, je disais Seigneur, Seigneur, mon Dieu, intervient. Alors, eh bien, il s'est trouvé brisé. C'est qu'un jour, il ne savait plus rien porter. Et j'ai vu la radiographie de son dos, toutes les vertèbres, c'est des anneaux les vertèbres, l'une sur l'autre, toutes les vertèbres, du côté intérieur, la moitié était disparue. Il ne restait plus que l'extérieur. Il ne pouvait plus rien faire, ni bouger, ni rien faire. Cette force physique, les apparences physiques, ne sont que du vent. Dans lequel l'homme ne doit pas se confier. Et si on a de la forme, si on a de la force, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu et ayons souci de la sainteté. Que l'on soit faible ou qu'on soit fort, ayons en vue la sainteté. Et pas d'utiliser son corps pour des choses que Dieu n'a pas voulu. Alors, il a bien sûr, comme cet ami Paul, qui faisait des nœuds dans le guidon de vélo en acier, pas de l'aluminium, eh bien, il va casser les cordes, au verset 14, chapitre 15, verset 14, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne, fraîche, étendit sa main pour la prendre et en tua 1000 hommes. Allez, ça y est, il fracasse tout. Il avait une sacrée rage. Et puis après, et bien après, il s'en va dans la nature, il meurt de soif. Il meurt de soif. Pensez à Élie qui avait fait massacrer 800 prêtres de Baal. Est-ce que Dieu lui avait demandé? Moi, je ne l'ai pas vu dans le texte, hein, que Dieu lui avait demandé de le faire. Hein. Après, Jézabel le menace de mort, il est en dépression et il part à pied vers le Sinaï. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une dépression, mais canon, carabine. Carabiné, et qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui va venir le retrouver. C'est Dieu qui va lui parler. Mais non, tu n'es pas tout seul, mon ami. Il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Acab et Jézabel. Tu vas continuer le travail que je t'ai demandé. Et on voit que Dieu n'a pas retiré à Élie son mandat de serviteur, malgré la folie qu'il lui avait pris à un moment donné, folie meurtrière. Eh bien, c'est la même chose ici. Samson est appelé à faire quelque chose pour Dieu, eh bien, malgré qu'il est brisé, qu'il est dans la colline, qu'il a soif, il meurt de soif, eh bien, il va supplier Dieu, non pas pour être saint, mais pour simplement avoir à boire. Si vous avez mal quelque part, vous allez supplier Dieu d'être toujours guéri, ça risque de durer longtemps. Si vous connaissez Dieu, d'abord rendez-lui l'honneur et grâce. Honneur et grâce à Dieu. Ensuite, secondairement, demandez une guérison pour telle ou telle chose de votre vie. Mais si vous n'avez pas un cœur reconnaissant, un cœur porté sur Dieu, ne le prenez pas pour le Père Noël qu'on tire sur la barbe et qui remplit les souliers le lendemain matin. Dieu ne marche pas toujours dans ses combines. Parfois, il l'accepte, pour un certain temps. Mais à force de jouer à ce jeu, Dieu ne répond plus jamais.
il faut demander à Dieu un cœur d'adorateur, d'action de grâce, de reconnaissance, de véritable enfant de Dieu. Ensuite, oui Seigneur, peux-tu prendre soin de ton enfant que je suis ? Si tu le veux dans ta volonté, interviens dans ma santé, interviens dans mon caractère, interviens dans mon psychisme. Si tu le veux, Seigneur. Mais notre copain Samson n'a pas encore compris. Hein? Alors, regardez bien au verset 18, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel, dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif ? Tomberai-je entre les mains des incirconcis ? Donc des païens, de tes ennemis. C'est un peu une forme de chantage. Je suis quand même chrétien. Il va falloir que tu interviennes. Les autres regardent Dieu. Ils vont se moquer de toi. C'est une forme de chantage. C'est de la mesquinerie. Et Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléchi, il en sortit de l'eau. Un petit peu comme les Hébreux dans le désert. Avec Moïse. Et les Hébreux désobéissaient. Ils avaient eu la statue, le veau d'or. Ils s'étaient corrompus ensemble. Et Dieu a quand même fendu le rocher pour leur donner à boire. Pendant 42, 43 ans, ils ont eu à manger et à boire. Ils n'ont pas circoncis leurs enfants. Ils ne leur ont pas pris à aimer Dieu. Ils sont tous morts dans le désert. Pourtant, Dieu avait donné la manne et l'eau. Vous voyez la persévérance de Dieu envers le pécheur, envers ceux qu'il a appelés ? Dieu est fidèle, mais l'homme. Vous voyez que, ici nous avons Samson, c'est le charnel. C'est l'exemple même du charnel, pourtant qui est appelé par Dieu. Faisons notre choix tous les jours. C'est pour ça que Paul dans Galates dit « Marchons selon l'esprit ». Ne marchez pas selon la chair, n'est-ce pas ? Il était bien placé pour le dire, puisqu'il avait massacré des chrétiens. Ensuite, au chapitre 16, Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée, il entra chez elle. Ça y est, il brûle. C'est un homme, il a un volcan en lui. Si ça fait le déclic pour une femme, ça y est. Il remuerait, il ferait une galerie sous terre pour aller jusqu'à Paris, hein ? Vous savez, au printemps, dans les prairies, les taupes, elles font 40 mètres de galerie par jour. Regardez bien les prairies. C'est pour ça que les cultivateurs passent avec des machines et le tracteur pour étendre toute la terre. 40 mètres de galerie par jour, mais en période d'amour, 15 mètres à l'heure. 15 mètres à l'heure. Scientifiquement étudié, hein ? Je n'invente rien. Alors, eh bien, notre Samson, c'est comme la taupe au printemps. Est-ce que nous ne sommes pas comme ça aussi ? Complètement fada ? Alors, bien sûr, il va chez la prostituée et les autres le savent qu'il est là. Ils entourent la maison, ils veulent le tuer. Ils attendent le matin quand il va sortir, bien fatigué sans doute, et pratiquement pour le tuer. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Verset 2. Hein? Samson, lui, taratata. Il se doute de quelque chose, il sort à minuit. Il n'attend pas le matin. Il se taille. Et il attrape les portes de la ville, des grosses portes avec les barreaux, les barres en acier. Et bien sûr, il va sur la montagne, en face des bronzes, il va narguer les autres. Et il dit, coucou, je suis là-bas. Et regardez, j'ai même arraché les portes de votre ville, des grosses portes. Regardez, c'est toujours moi le plus beau, le plus fort, celui qui marche sur l'eau. Alors après ça, il continue, il va dans une autre localité, il aima une femme dans la vallée de Sorek, verset 4. Elle se nommait Delila. Pas Dalila. Delila. Chapitre 16, verset 4. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et finalement, force de ruse, il va quand même lui dire, tu sais, c'est mes grands cheveux. Une explication comme une autre. Hein? Elle va l'importuner, il va finir par lâcher. Et il va lui dire, hein, verset 18, Delila, chapitre 16, verset 18, Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, le nigo. Oui, dans la passion. Dans la passion, on s'expose. Et dans la passion, on est sans défense. On sombre après. La force est en Christ, la sécurité est en Christ, dans la fidélité, dans l'obéissance au Seigneur. Quand Jésus dit, nul ne vous ravira de la main de mon Père, c'est parce qu'il est mis dans le même texte, dans Jean chapitre 10, que mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Mais s'ils ne connaissent plus la voix, ils ne suivent plus Jésus. Elles sont sorties de la main. Regardez le nombre de chrétiens ici en Europe. Où est la sainteté de Christ? Où elle apparaît? Vous portez témoignage. Ils sont sortis de la main. Ce n'est pas Dieu qui les a retirés de sa main. Ils sont sortis de la main. Ils ne connaissent plus la voix du Seigneur, ils ne le suivent plus. Eh bien, notre copain Samson, il est très, très actuel, moi, je trouve. Très actuel. Verset 18. Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. On ouvre son cœur au Seigneur, les amis. On ouvre son âme au Seigneur. C'est le seul confident réel qui est fidèle et bon. Il peut y avoir l'un ou l'autre chrétien qui a une âme comme ça, mais c'est rare. C'est rare. En tout cas, dans la prière et dans l'adoration, même à genoux couchés par terre, n'importe comment, il faut ouvrir son cœur au Seigneur régulièrement. Jésus l'a dit, venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, car je suis doux et humble de cœur. Il faut tout lâcher. Apprendre à tout remettre au Seigneur. Non pas par intérêt pour soi, pour dépendre de lui, pour être à lui, pour lui appartenir. Et voilà que notre copain Samson, il appartient à Delila. Verset 19, elle l'endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter, perdit sa force. Un chrétien qui ne se confie plus dans le Seigneur sera dompté par quelqu'un d'autre. Et ne me dites pas que c'est d'abord le diable. C'est faute d'obéir et faute de fidélité. Il y a une responsabilité dans notre irresponsabilité. Il y a une responsabilité qu'il faut accepter, il faut savoir demander pardon à Dieu. Dieu peut comprendre que j'étais irresponsable. Dieu peut comprendre, pardonner 7 fois 70. Dieu est fidèle et bon. Mais il ne faut quand même pas continuer à dire « Je serai en forme en péchant. Je suis béni quand je pêche. » Jamais Dieu ne dira ça. Si, il a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Quelqu'un t'a-t-il condamné? Non, personne. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Responsabilité. Et pratiquement, quand Pierre a trahi, il pleura amèrement. Qui a eu le courage d'aller rechercher Pierre? Jésus. Jésus a été recherché quand il était au bord du lac et qu'il essayait de pêcher, il ne savait même plus pêcher. Un professionnel qui ne sait plus pêcher du poisson, c'est grave. Eh bien, c'était le cas de Pierre. Dans quel cambouis, dans quelle situation morale il était pour avoir perdu toute capacité? Eh bien, ici, notre copain Samson a perdu toute capacité. Zoom. On va le lier, il est prisonnier, on va lui crever les yeux. Hein, et évidemment, il va tourner la meule du moulin, comme les Turcs ottomans ont fait en Bulgarie et en Roumanie. Jusqu'aux portes de Vienne, chaque fois qu'ils prenaient des hommes, leur crevaient les yeux pour faire tourner les meules. Et les, pour les moulins, la farine, mais aussi pour les souffler dans les forges, faire les armes. Et vous savez, les Turcs le faisaient, pourquoi? Parce que les Hittites et les Philistins proviennent de là. Kif-kif, même mentalité. Les princes des Philistins, verset 23, s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. C'est bien sûr une grande statue qu'on adore, devant laquelle on sacrifie des enfants.
On les attrape par les pieds, on fracasse la tête et on les brûle. Et pratiquement ce qui se passe, c'est qu'ils pensaient qu'il y avait des bénédictions. Ils n'ont pas dit à l'Akbar, hein, ou je ne sais pas quoi, ils n'ont pas dit. C'est la même mentalité. La religion, ce n'est que un prétexte pour les passions viles. Et la vraie ennemie, c'est le péché. Le vrai ennemi de l'homme, c'est le péché. Le vrai ennemi de l'âme, c'est le péché. Et ce Dieu, ce n'est qu'un tas de pierres. Mais eux sont persuadés que ce Dieu qu'ils ont là est puissant. Puisque Samson est prisonnier et est sans force. Et regardez, ils disent ceci dans le verset 23. Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Aujourd'hui, chaque fois qu'un chrétien se conduit mal, il se casse la figure, les incroyants et le diable disent, oui, on a raison, ils sont rien du tout. Ils sont rien du tout. Ils ne sont pas mieux que nous, regardez leur Jésus de pacotille. Nous avons la responsabilité pour nous-mêmes et pour Christ, devant Satan, devant les démons, devant les incroyants. Nous avons une mission témoin. Nous avons un rôle à jouer. Et quand on est centré sur soi-même, on a perdu le sens de sa responsabilité. Et c'est ce qui a été, qui a amené Samson au drame. Il était centré sur lui-même, non pas sur Dieu. Verset 24. Quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Donc voilà, il semble que ce peuple soit béni. Et tout le drame, c'est que quel est le Dieu qui va gagner? Alors, au verset 27, la maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes et philistins étaient là, il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Samson invoqua l'Éternel, dit « Seigneur, souviens-toi de moi, je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force seulement pour cette fois-ci, et que d'un seul coup je tire vengeance des philistins pour mes deux yeux. » Donc ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour ses deux yeux, c'est une vengeance. Et voilà, il va attraper les colonnes du temple, et le temple va s'écrouler, et Samson dit ceci au verset 30, « Samson dit que je meurs avec les Philistins. » Il se pencha fortement, la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Les amis, Samson... C'est l'homme de la passion. Bien sûr, ça va ébranler la confiance des Philistins dans leur divinité, leur sacrifice humain, leur prostitution sacrée. Ça va permettre à certains Hébreux de retourner vers le vrai Dieu. Mais Samson, lui, on ne voit pas qu'il a retourné vers Dieu. On ne voit pas que Samson a eu la paix de Dieu. On ne voit pas qu'il y a eu la consolation spirituelle de Josué, de Moïse, des autres. On voit que c'est un homme qui vit dans le drame parce qu'il suit ses passions. Et il va à la mort. Alors j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, combien de fois dans le peuple d'Israël il y a eu des gens comme ça, avec Karl Marx, qui est un juif, avec Freud, guérison de la conscience de l'homme sans Dieu. Karl Marx, guérison des injustices en tuant les riches, en mettant les pauvres au-dessus, etc. etc. Nous voyons que toutes les grandes théories, les grands drames de cette humanité, c'est toujours des Samson, de cette race-là. Mais il y a un autre juif qui n'a pas suivi ses passions, qui n'a pas suivi le péché, c'est Jésus. Et Jésus est mort à la croix, dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Et il a été approuvé de Dieu, et il est ressuscité. Alors, à quoi servait un juge à l'époque de Samson, de Déborah, de Gédéon, etc., tous ces juges? Eh bien, le juge, c'est quelqu'un qui intervient pour que le peuple survive, qu'il reprenne courage, qu'il se tourne vers Dieu. Provisoirement, il se retourne vers Dieu, puis après, il se détourne. Tous les défauts qu'on voit chez Samson étaient dans le peuple aussi. L'attrait pour la prostituée, l'attrait pour la femme philistine, la guindaille, la force, etc. Et on voit, quand on fait les fouilles archéologiques de cette époque, on voit plein de dans les sites hébreux, on voit des petites statuettes d'Astarté, Asherah, on voit des symboles de ces divinités païennes. Donc les Hébreux, les descendants de Moïse, ont adoré souvent des divinités comme les Philistins. Ils se sont corrompus. Et il y a eu de grands échecs dans la vie spirituelle. Aujourd'hui, n'est-il pas de la même façon pour des tas de chrétiens? Ils adorent des divinités, des instincts que Dieu ne leur a pas permis d'adorer. Dans la première épître de Jean, à la fin de le dernier verset, « Méfiez-vous, ne vous confiez pas dans les idoles », dit l'apôtre Jean. Alors, c'est quoi le vrai juge? Bien, le vrai juge, ce n'est pas celui qui tue les hommes sous le temple en tirant les colonnes, c'est celui qui meurt sur la croix, c'est celui qui donne sa vie. Ça, ce vrai juge-là, Jésus, il a jugé le péché. Le péché mérite la mort. Je prends le péché de l'homme sur moi et je suis crucifié. Le péché de l'homme est ce qui est de plus odieux sur la terre et qui détruit l'homme, qui le mène en enfer, qui donne le pouvoir aux passions, qui donne le pouvoir au meurtre, qui donne le pouvoir à la politique, le pouvoir à l'argent. C'est le péché. Je porte le péché de l'homme sur moi et je subis le châtiment que mérite le péché. La mort. Jésus meurt sur la croix, il a porté notre péché. Et si Jésus n'est pas un fou, alors il est saint. Trois fois saint. Infiniment miséricordieux pour l'homme prisonnier du péché. Et Jésus ressuscité est la démonstration que Dieu a prouvé Jésus. Jésus est le vrai juge sur le péché de l'homme. Mais il n'a pas tué les Philistins. Il a offert sa vie sur la croix. Il a offert sa vie sur la croix pour le péché. La vraie question, la voilà. Qui est le vrai Dieu? Celui dont la Bible parle, qui se révèle par les prophètes et Jésus? Ou les dieux des humains? Le football, la télévision, le basket, etc. La beauté physique. Est-ce que les dieux humains ne sont pas en train de lutter avec le vrai Dieu et chercher à détourner les églises et les chrétiens du vrai Dieu, comme Samson a été détourné? À qui s'adresse l'histoire? Si Samson est mort sous le temple avec les Philistins, est-ce que nous allons mourir dans cette société avec la société de péché qu'elle est, et ne pas être repris par Jésus lorsqu'il vient pour enlever son église? Est-ce que nous allons mourir avec, comme Samson, sous le temple qui s'écroule? Ou est-ce que nous sommes dignes, nous aimons le Seigneur, et quand le Seigneur vient, il enlève l'église, et le monde périt. Le monde périt, parce qu'il est dans le péché. Ça, c'est à quoi sert l'histoire? Eh bien, l'histoire nous montre qu'il ne faut pas mourir sous le temple du péché de Dagon. Il faut absolument être avec le Seigneur. Il ne faut pas répéter l'histoire de Samson. Ça, c'est le vrai Dieu qui nous le dit à travers la Bible. Alors, le deuxième point, c'est où est le bon serviteur? Abraham, Moïse, Josué? Où est le bon serviteur de Dieu? Où est-il? Celui qui cherche la volonté du Père. Jésus dit dans Jean chapitre 4, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Tandis que si vous regardez dans Josué, et bien dans Josué chapitre 17, verset 6, vous voyez ceci, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » C'est pas ça aujourd'hui? Chapitre 21, verset 25, « Et quand vous éduquez les enfants, et que vous les emmenez à l'école, quel est le programme scolaire? Qu'ils aient tous le droit de choisir ce qu'ils veulent, tout ce qui leur paraît bon, chacun a sa vérité. Il n'y a pas de vérité. Tout le monde a sa vérité. » C'est la même chose que le temps des juges. Est-ce que nous, chrétiens, on peut adhérer à ça? Non. Chapitre 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous ne pouvons pas dire qu'une église chrétienne et des chrétiens peuvent tomber dans cette misère morale et spirituelle. On ne peut pas venir à la Sainte Cène et prendre le pain et le vin en mémoire du sacrifice de Jésus en faisant n'importe quoi, jour et nuit. Il faut avoir vraiment un cœur appartenant à Dieu. Dimanche prochain, on fera la Sainte Cène. Il ne faut pas prendre la Sainte Cène pour être un jour comme Samson, avec le monde sous le temple qui s'écroule. Si on prend la Sainte Cène, on la prend en honorant Dieu, parce que nous appartenons au Seigneur, et nous voulons lui appartenir pour toujours. Alors, la décision de Dieu en envoyant Samson dans ce peuple-là, elle est négative? Est-ce qu'elle est négative? Hein? Je me le demande, moi. C'est quand même un sadique, ce Dieu. Il met Samson dans le caca, hein, etc. Et ça arrive souvent dans la Bible. Hein? Puis il y en a qui vous en rajoutent, hein, vous savez. Quand il faut faire découvrir l'Évangile et la Bible à certains, ça, on en entend toutes les sortes. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Donc vous voyez bien que Dieu, c'est la faute. Il les a livrés aux ennemis. Ah oui? Allons plus loin. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Mais les amis, parce que la Bible le dit, et je ne veux pas faire du baratin. Du baratin pour faire du baratin.
Page 855.
Romains chapitre 1. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, donc manque de foi, toute injustice, manque de sainteté, refus de sainteté, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, niette, c'est pas pour moi ça. Devenir saint. Comme j'ai vu une fois un speaker à la télévision française, un belge lui demandait, mais pourquoi vous avez toujours des plaques en dessous de la ceinture? Le speaker, hein, il y avait des millions d'auditeurs. Oh, vous savez, en France, la vertu, c'est trop triste. Bon, en enfer, on verra si c'est marrant. Alors, toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, regardez ici. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Quand je regardais la petite fille là, de mamie, elle est magnifique. Quand je vois les enfants de toi, hein, ils sont magnifiques. Dieu nous a donné des enfants magnifiques. Qu'est-ce qu'on va en faire 20 ans plus tard? Les Philistins? Ou des vrais adorateurs de Dieu. Alors, on doit voir le souhait de Dieu, on doit voir le plan de Dieu pour les enfants. On doit voir que sa sainteté, sa divinité doit faire. Il veut vivre en eux, et il veut exprimer sa gloire en eux. Il le met déjà dans les fleurs, dans les oiseaux, dans les astres, un soleil couchant. Pourquoi il ne pourrait pas le mettre dans l'enfant? Ah non, les enfants, c'est à moi. Et non, c'est pas à moi, c'est à Dieu, les enfants. Alors, ils sont donc inexcusables, à la fin du verset 20. Puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu, ils n'y ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Samson. Samson. Se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Alors, regardez les Philistins, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible, donc du Dieu qui ne meurt pas, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Donc, chez les Philistins, il y avait des statues avec des animaux, tout ça, c'était des divinités. On retrouve ça encore aujourd'hui dans les religions. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Vous avez vu? Si vous regardez bien dans Josué, chapitre 13, verset 1, Dieu les a livrés à l'hostilité. Il envoie un juge quand même, de temps en temps. Il y en a 12 ou 13 dans le livre des juges, sur 320 ans. Mais il les a livrés quand même au résultat de leur péché. Eh bien, regardez ici. Pour nous, dans le Nouveau Testament, Dieu a livré ceux qui ne l'adorent pas, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui ne veulent pas la sainteté, il les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Samson, c'est aujourd'hui, et tous les jours. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps.
Et oui, ils ont perdu l'honneur que Dieu avait donné pour leur corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. On a à la télévision et dans tout la proclamation du corps bien fait. Fitness, hein, gymnastique, les crèmes, etc., tchik et tchak, hein, solarium et tout le reste. Et qu'est-ce qu'on fait, mes amis? On adore la créature, la carrosserie de la voiture. Le moteur ne nous intéresse pas. L'âme. Eh bien, regardez, on a offensé Dieu. Alors, regardez le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés, pas aux Philistins. Ils ne sont pas livrés aux Philistins. Il les a livrés à des passions infâmes. Les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enfermés dans leurs désirs les uns pour les autres. Tiens. En commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Sida et tout le reste. Hein. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, c'est-à-dire de vivre avec lui, pour lui, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, donc à toutes leurs passions, pour commettre des choses indignes. Et alors, les choses indignes, c'est seulement sexuel? Non. Étant remplis de toute espèce d'injustice, manque de sainteté, de méchanceté, cupidité, malice. Aujourd'hui, si on continue, il va falloir des systèmes de sécurité à toutes les voitures, des systèmes de sécurité à toutes les maisons, hein, avec des caméras, pour savoir si on ne devait pas voler. Et si vous allez au soir à la banque avec votre carte qui fait noir, dans quelques années, vous vous ferez tabasser et vous donnerez votre numéro à celui qui est là, à ceux qui sont là, on vous videra votre compte. Une femme qui est seule en voiture, on lui fera une queue de poisson sur la route, on la poussera au fossé et on la violera. Une fille qui va toute seule aux courses sera violée, prise. Peut-être, nous avons déjà reçu une jeune fille ici qui avait été embarquée comme ça, qui était dans une maison de prostitution en Perse. C'est donc un gars, un client, des heures tardives, à 6 heures du matin, a déposé sur l'autoroute et deux jeunes qui nous connaissaient l'ont emmenée ici. Mais cette fille, elle était où? Pour commencer son périple dans toute la maison close d'Anvers. À Maubeuge, elle sortait avec des copains et elle a eu une pastille dans sa boisson. Mais comment on l'a repérée? Bah, sa tenue, à son apparence. Si elle met en valeur son apparence et sa tenue, forcément, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Eh bien, vous voyez, cette fille-là, pour finir, se retrouver à Gombrie chez nous, par je ne sais quel miracle, pour échapper aux maisons de prostitution d'Anvers. Combien de fois on a eu des cas ici chez nous qui sont dus au péché de l'homme? Alors, c'est de la méchanceté, ça, d'enlever une fille, et puis ensuite, cupidité, faire des sous avec son corps. Et si elle se sauve et qu'on la rattrape, on la tue. Querelle, ruse, malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain. Pourquoi les enfants sont-ils aussi arrogants en maternelle déjà avec les institutrices maternelles? Notre sœur ici, Annette, elle a travaillé 35 ans en institutrice maternelle. Elle avait jusqu'à 35 enfants, toute seule, toute la journée. À cette époque-là, les enfants, écoutez, maintenant, si elle en a 5 ou 10, elle devient cinglée. Pourquoi? Parce que, simplement, beaucoup d'enfants sont engendrés après un film porno ou en regardant une cassette. Moi, j'en connais. J'ai les confidences de pas mal de gens, j'en connais. C'est pas après avoir prié, après avoir demandé à Dieu un enfant et dire « Seigneur, je te le donne, je vais l'éduquer vers la sainteté. » Non. Alors, l'enfant, il est né sous quels esprits? Sous quels démons? Quand il arrive à l'école, il est incontrôlable. À 12-15 ans, il est incontrôlable. À 25 ans, il est incontrôlable. Il est quand incontrôlable? Il faudra un gendarme? Mais même les gendarmes eux-mêmes sont incontrôlables parfois. On se demande des fois ce qu'il y a là. Alors, pratiquement, vous voyez l'ambiance? Dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc on fait des lois pour encourager le vice. Ils approuvent ceux qui les font, on fait des lois. Donc aujourd'hui, la Bible a une incidence extrêmement importante. Quelle est la décision de Dieu, en fait, Kant? Est-ce qu'elle est positive et négative en envoyant Samson chez les Philistins? Pour moi, elle est positive parce qu'elle nous donne une leçon. Je dois donner ma vie au Seigneur et ne pas suivre mes passions. Je dois adorer le Seigneur et pas adorer mes plaisirs et mes instincts. Le message de Samson est d'aujourd'hui. Et la décision est fondamentalement positive. Soyez saints comme je suis saint. La décision de Dieu à mon égard est vraiment positive. Soyez saints comme je suis saint. C'est dans Lévitique, c'est dans l'épître de Pierre, et même dans la bouche de Jésus. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et vous savez qu'à la fin des temps, ceux qui s'approchent rapidement, il y a quelque chose qui va se passer. Et je prends l'épître aux Thessaloniciens, la première, au chapitre 4. Au chapitre 4. Au reste frère, 1 Thessaloniciens chapitre 4, au reste frère et sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, ce que je viens d'essayer de faire, n'est-ce pas, avec l'histoire de Samson, et que c'est là ce que vous faites, ah, c'est bien, il est content de cette communauté-là, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Regardez, l'appel au progrès. Quand on fait l'éducation d'un enfant, on doit l'appeler non pas à la satisfaction de soi, on doit l'appeler au progrès spirituel. Vous savez en effet, et c'est la même chose dans les églises avec les chrétiens, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, et que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce qui était le cas de Samson, c'est ça qu'il a mis dans le lac. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, mensonge et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Oui, c'est clair.
Ça arrive à être midi.
Oui. Mes amis, nous sommes tous des êtres faibles, nous sommes tous des pécheurs. Mais toujours, à un moment donné, dans notre conscience, avec l'Esprit Saint, nous savons qu'il y a une limite, un fil invisible, rouge, dans notre conscience qu'il ne faut pas passer. Il ne faut pas le passer. C'est de la folie de le passer. Il faut reculer et dire, Seigneur, aide-moi dans ma faiblesse. Tu te glorifieras. Seigneur, viens à mon secours. Alors je vous invite, deux ou trois, à prier dans ce sens, brièvement. Au nom de Jésus. Amen.